Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas trop, la plupart des gens ici, je sais que vous allez probablement échanger des cadeaux. Si ce n'était pas hier, ça va être aujourd'hui ou demain. Vous savez, il y a eu une époque où on échangeait des cadeaux plus comme dans le temps du jour de l'an. Ça vous dit quelque chose? Mes grands-parents faisaient ça dans le temps du jour de l'an. Puis, tu sais, c'est intéressant. Pourquoi on donne des cadeaux, d'après vous? Ouais, faire plaisir, parce qu'on veut exprimer notre amour, on veut exprimer notre appréciation. Oui, des fois, ça va un peu loin, on le sait, là, tout le côté mercantile de Noël, mais le fond de la chose, c'est de vouloir donner notre appréciation, de vouloir exprimer notre appréciation, exprimer notre amour. Et Noël, c'est l'occasion que Dieu a pris pour exprimer d'une façon, je dis tangible, c'est touchable, son amour envers nous. Puis c'est pour ça que ce matin, on s'en va dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est le seul évangile qui ne parle pas de la nativité, mais il y a Jean 1 qui nous amène dans les profondeurs de la nativité. Et on va voir justement des cadeaux. Vous aimez ça, déballer des cadeaux? Ben, on va déballer trois cadeaux aujourd'hui. Trois cadeaux à travers Jean 1 qui vont nous aider à comprendre tous les effets de l'incarnation. Vous savez ce que ça veut dire, l'incarnation? C'est-à-dire que Dieu se fait chair, il se fait homme. Jésus, c'était un homme, on pouvait et on pourra le toucher, et ça a des effets. Le fait que Dieu se fait homme, c'est des cadeaux qu'on va déballer ce matin. Dieu parmi nous, Emmanuel. Et si je résumais l'exposé ce matin, je dirais: l'incarnation nous déballe trois des plus grands mystères de l'univers. Et quand je parle de mystère, je parle de quelque chose qu'on va déballer. Et savez-vous quoi? Il y a de quoi célébrer Noël. Je vais prier et Julie va nous lire le texte de ce matin dans la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, et ce matin, on veut s'approcher de toi parce que tu es vivant. Parce que tu es toujours là, tu nous entends, tu intercèdes même pour nous. Ce matin, on veut célébrer, on veut déballer ces vérités que ta parole nous expose. Ouvre notre cœur, même si certains sont fatigués, ce matin, pour qu'on puisse célébrer toute la beauté et la grandeur de l'incarnation. Oui, Jésus, c'est en ton nom que nous te prions. Amen.
Jean 1, les versets 1 à 18, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 1, 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. »
Merci, Minou. Wow, quel texte! Vous savez que l'incarnation, c'est un point de chute, je pourrais dire. pratiquement une occasion de chute pour presque le deux tiers de la planète. Autant musulmans, bouddhistes, mormons, témoins de Jéhovah, hindous. Et en plus que la moitié de l'Occident, j'ai vu dernièrement, se disent sans religion. On peut dire que l'idée que Dieu se fait chair est quelque chose de, je dirais, sinon réactionnaire, c'est quelque chose d'étrange pour les gens. Mais effectivement, c'est un mystère. Et là, quand je me plongeais dans le texte de Jean 1, je me disais, wow, mais il y a tellement de stock là-dedans. Chaque verset aurait pu nous emmener dans une bonne demi-heure de sermon facile, minimum. Mais bon, si vous voulez aller plus loin dans le sujet de l'incarnation, il y a des très bons livres. Keller a fait un très bon livre sur le mystère de Noël, Carson sur l'incarnation. Si vous voulez aller plus loin, je vais mettre sur la page Facebook quelques ouvrages qui pourront vous aider à approfondir ce fait-là. Aujourd'hui, on déballe des cadeaux, fait que êtes-vous prêts? Le premier cadeau, c'est... Puis en plus, on y va par exposition, fait que les cadeaux se révèlent au fur et à mesure des versets. C'est pas beau, ça? Donc, le premier cadeau, j'ai marqué « déballer l'emballant ». Parce que l'emballant, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est emballant. Donc, je trouvais que ça faisait un beau petit jeu de mots pour commencer. « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est une révolution qui se cache en arrière de cet emballage-là. Des fois, on a tendance à voir juste l'emballage puis dire « Ah, c'est juste ça, tu sais, comme Jésus, par exemple. » Un petit bébé dans une crèche, on pourrait se dire, ah, ben tu sais, on se laisse détourner ou distorsionner par l'apparence seulement. Mais dans cette crèche-là, il y avait une révolution qui a un impact, mais tellement profond sur le salut et sur l'Évangile. La personne, l'essence de Dieu est révélée à travers l'incarnation. C'est Dieu lui-même. En quoi ça impacte sur nous? Bien, Jésus dit dans Jean 17, 3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Déjà, tu sais, de le connaître, c'est la vie éternelle. Si je ne le connais pas ou si je ne le connais pas tel qu'il est, je passe à côté du plan. Jean 8, Jésus disait « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est fort là. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » À travers cet enfant-là, à travers Jésus, Dieu se révèle. Et comme je le disais, les apparences sont souvent trompeuses. Et même les disciples, après plusieurs années, étaient un peu mitigés. Et ça a été souvent la tension des discussions dans le christianisme depuis 2000 ans, pleinement Dieu, pleinement homme, est-ce que c'est un demi-dieu ou un demi-homme? Il y en a même qui pensent que c'était un ange, finalement, c'était même pas un homme, c'était juste comme un pyjama en chair. Et il y en a d'autres qui disent que c'était un homme qui est devenu Dieu, mais non! Dieu se révèle. C'est la parole, hein? Au commencement était la parole. Et là, on nous ramène à la Genèse, évidemment. T'sais, au commencement, Dieu dit, la lumière soit. Et c'est quand j'en parle de la parole, il ne parle pas seulement de ce qu'on entend, comme là, par ma parole, vous entendez ce que je dis, mais non plus de ce qui est écrit dans les Écritures, comme la parole de Dieu, mais beaucoup plus profond que ça. On parle de la pensée, le souffle, la puissance créatrice de Dieu. Chaque fois que Dieu dit, Jésus agit. Colossiens 1, 16, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Ce passage-là est incroyable, parce que tout a été créé par lui. Et puis on ne parle pas juste des arbres, puis des petits oiseaux, puis même les êtres humains. Mais on parle aussi des choses qui sont visibles, des choses qui sont invisibles. On parle des dominations, de l'autorité, des gouvernements. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, c'est la puissance de Dieu qui vient parmi nous. C'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu qui habite avec nous. C'est tout ce qui fait le pont entre l'homme et le Père. C'est lui la voix. La voix de Dieu, qu'Élie entendait, la nuée que les Israélites ont vue, le buisson ardent que Moïse discutait avec l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus, c'est l'expression de Dieu, c'est le Fils de Dieu, et cette parole-là était avec Dieu. Et là, j'attire votre attention là-dessus parce qu'on voit que Jean, au verset 1 et 2, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Donc, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est fou. Donc, la parole était pas juste Dieu, mais elle était aussi avec Dieu. Donc, ça nous multiplie le Dieu, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour nous, les occidentaux chrétiens, souvent, ça fait partie un peu de notre culture, cette idée-là d'avoir un Dieu en plusieurs personnes. Mais il y a vraiment une révolution, là. Il était Dieu, il était avec Dieu. Wow! Et même Jean prend la peine de le répéter au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, tout devient clair. Quand on dit, par exemple, quand Dieu dit dans Ésaïe 44:6, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Hors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est un déballage révolutionnaire. C'est Dieu qui se fait homme. Ça révolutionne nos prières. Ça révolutionne notre espérance. On ne parle pas d'une logique, là. Parce que bonne chance, vous arrivez à me l'expliquer. Il y a toutes sortes d'images. C'est comme l'eau, solide, liquide, glacée. Oubliez ça, là. Là, c'est essayer de mettre dans une canne un Dieu ultra impossible à comprendre pour un homme. Là. C'est quelque chose de spirituel, par la foi. Ce n'est pas une logique, c'est une révolution qui me dit, « Ah, wow, mon Dieu s'est fait homme, mon Dieu vient habiter dans mon cœur, et il reste toujours, mon Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la Trinité. En lui était la vie. » Encore là, on a l'impression que la vie est quelque chose d'autonome. T'sais, on dit, oh, je lance ça à l'univers, à la vie. T'sais, on entend ces expressions-là des fois. Là, oh, qu'est-ce que tu fais 2023? C'est quoi tes projets? Oh, je vais lancer ça à la vie. Et non, la vie, c'est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas quelque chose d'à part. On nous le présente comme la partie intégrante de Jésus. En lui était la vie. Jésus lui-même, dans Jean 14:6, dit « Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Des concepts qu'on aurait pensé qui étaient extérieurs à une personne. Mais c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce Dieu créateur, cette vie en elle-même, tout ce qui respire, tout ce qui vit, vit en lui. En elle était la vie. Et ça, c'est puissant. Et là, on ne va pas dans le panthéisme, là, comme par exemple les religions amérindiennes. C'est que si tu respires, c'est parce que Dieu le veut. On parle de la volonté de Dieu. Là. Et ça, c'est Jésus. En elle était la vie. Faut aller plus loin que le petit Jésus. Tu sais, le petit Jésus en porcelaine là, qui est en dessous de l'arbre de Noël, puis il ne bouge pas, là, tu sais. Ça va beaucoup plus loin que ça. La vie a voulu prendre une forme humaine. Dieu a pris une forme humaine, et ça, pour toujours. Faire une seule chair avec nous. J'aimais ça quand je parlais de l'exposé d'aujourd'hui avec Yannick. Là, il m'a fait penser à quelque chose qui était... C'est tellement vrai. Les deux formeront une seule chair. C'est comme un mariage, une union que Dieu fait avec l'humanité. Dieu se fait chair. Le Dieu tout-puissant, le Dieu trinitaire, prend une décision de devenir un homme. Devenir un homme. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il a décidé de tasser les ténèbres, nous éclairer quand on n'était même pas conscient de notre état. Dieu dit, qu'est-ce qui serait le plus beau cadeau à donner à ma créature, à l'humain. Ben, qu'un, je vais m'emballer puis je vais y aller, moi, sous le sapin. C'est Dieu lui-même qui s'emballe. C'est une révolution. Ça vaut la peine de juste méditer là-dessus, parce que souvent, comme chrétien, on prend ça pour acquis, puis ça devient comme un fait, mais il y a une révolution profonde, et on va continuer. On est au verset 5. « Déballer l'éternité. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Ça commence par lumière, ça finit presque par lumière. Il y a de la lumière en bibitte dans ce chunk de passage-là. Dieu, trois personnes, c'est une révélation, c'est une révolution. Et Dieu se révèle, un peu comme une lumière, finalement. Moi, personnellement, vous en parlerez à ma femme. Quand je donne un cadeau, des fois, je suis tellement excité que j'aime ça lancer des petits indices. Des petits teasers, genre pour préparer mon public. Puis là, ma femme a dit, « Mais là, wow, là, tu m'as fallu par le tir! » Dieu est pareil. Mais je ne dis pas qu'il est pareil comme moi, là. Je viens juste de me lire, puis j'ai dit, « Non, non. » Mais il y a une révélation, par exemple, qui a été annoncée, préparée par Dieu lui-même à travers les prophètes, Ésaïe 7,14. À chaque fois que je dis ces passages-là, je me dis, « Boy! » OK, Dieu l'avait vraiment. Il n'avait pas juste donné des indices. C'était évident. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et comme si ce n'était pas assez, Ésaïe 9, renchérit, dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'incarnation de Jésus expose ce grand désir-là de Dieu de venir se donner. C'est pas une obligation pour réparer la gaffe d'Adam, on pourrait dire. Là, ah non, il a gaffé, il va falloir que j'y aille. Il faut tout le temps que je fasse tout de suite. Donc, des fois, on est comme ça quand nos enfants se disent, pourrais-tu faire quelque chose? Puis là, ben, ils font quelque chose, mais ils font tout croche. Puis là, j'aurais dû le faire moi-même. C'est correct, je vais y aller. C'est pas ça partout qui s'est passé avec Dieu. Mais pas du tout. Le plan, c'était ça. Le plan s'est accompli dans l'éternité passée. Imaginez, là. Tu sais, l'éternité future, c'est assez facile à imaginer, là, dans le genre qu'on fait juste dire que c'est comme une route qui finit plus. Là. C'est fait que bon, ça finit plus. C'est éternel. Mais l'éternité passée, c'est autre chose. Un petit peu plus compliqué dans le concept. Là. Nous, on a une date de début, mais Dieu n'en avait pas. Mais là, imaginez que dans cette éternité passée, là, qui n'a même pas de début, c'était le désir ultime de Dieu de venir comme ça s'incarner. Il y avait une excitation. Il y avait hâte, pas un peu. J'aime Luc 22, 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et le mot « vivement » est intéressant parce que d'habitude, dans la Louis II, en tout cas, c'est traduit par quelque chose de négatif. Convoitise, désir, passion. C'est « J'ai convoité pendant l'éternité passée » et d'une façon passionnée et vive, ce moment-là, wow, OK! Ça met une perspective intéressante quand même, de voir la passion de Dieu à travers cette incarnation-là. Jésus incarné nous expose toute l'excitation de Dieu dans l'éternité passée, dans l'éternité future. C'est une exposition puissante de son amour. On est au verset 10. En elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Et là, il y a une tristesse, là. Tu donnes un cadeau à quelqu'un, il déballe. Et là, c'est même pas les batteries sont pas avec. C'est comme OK, non. Non seulement j'en veux pas, là, mais je pense que je vais l'écraser devant toi. Tu sais, là, dans le genre, là, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Elle était dans le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. C'est le drame de l'excitation de Dieu devant la réalité de l'homme. Le doute, l'incompréhension, l'abandon, l'agressivité envers lui, les accusations, la mise à mort. Jésus dit dans Jean 3, verset 20, il dit, « Quiconque fait le mal hait la lumière. » Il hait la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et la seule image que j'avais de ça, c'est quand j'ai regardé en arrière de la porte de mon studio. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le ménage. Et quand j'ai mis la flashlight là, c'était pas beau tout de suite. Il y en avait épais de la poussière. Non seulement, et c'est Piper qui disait ça par rapport à ce passage-là qu'on voit aujourd'hui, non seulement l'humanité ne court pas après un peu plus de lumière, mais elle veut s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Et là, on arrive dans une image où c'est comme si, tu sais, mettons là, tu es dans les ténèbres totales, là, rien, là. Puis là, tout d'un coup, tu es devant le soleil, ébloui, et tu dis, non, j'en veux pas de ça. Ça expose autant l'intensité de son amour que l'intensité de notre perdition. Jésus vient faire une seule chair avec nous, comme ce mariage-là, pour se prendre une épouse, qui est l'Église. Et dans cette réalité-là, d'un Dieu qui vient dans un monde hostile, où on voit vraiment son amour et sa passion pour nous, ben on voit l'humanité. C'est, tu sais, quand j'étais jeune, et encore, j'aime beaucoup lire des ouvrages de philosophie. Et j'aimais je sais pas si ça vous dit quelque chose, des existentialistes, là, genre Kierkegaard, Sartre. Puis, on parle beaucoup d'humanisme dans ce temps-là. Mais j'avais toujours un bug, et je trouve finalement que le plus grand humaniste de l'univers, c'est Dieu lui-même. Écoute, tu peux pas avoir plus humaniste qu'un Dieu qui décide de se faire homme. Parce que l'homme, lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir Dieu. Il n'est pas humaniste pour Saint-Saëns. Il est comme un déiste fini, là. Il veut devenir autre chose que ce qu'il est. Il ne veut pas accepter ce qu'il est. Et Dieu, lui, volontairement, dans une excitation éternelle du passé, a pris la décision volontaire de s'humilier dans un monde hostile et se faire homme. C'est ça, l'incarnation. C'est juste, wow! Ça nous fait déballer une éternité qui était totalement inconnue avant ça. Évidemment, aujourd'hui, on a plein d'indices, mais on sait pourquoi. Cette incarnation-là était encore plus grande même que ce qui semblait être. Ce n'est pas juste Dieu qui décide de venir prendre une marche sur la terre parmi les hommes, guérir une couple de personnes, puis après ça, mourir. C'est Dieu qui vient prendre la place de l'humanité, qui prend la décision dans cette Trinité-là d'absorber en tant qu'homme toute la colère de Dieu. Oui, d'un côté, l'être humain n'a jamais été capable de réaliser toutes les exigences de Dieu. Et Dieu, lui-même, en se faisant homme, est venu lui-même. Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Par son sang, qui est la vie, il a le pouvoir d'effacer tous les péchés. Et ça, on le sait déjà, mais c'est par l'incarnation que ça a pu arriver. Par l'incarnation. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Hébreux 10, 12, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Romains 8, 28, 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, toujours vivant, toujours en chair, toujours un corps, en tout cas un corps glorifié maintenant. Il intercède pour nous avec son corps, pour chacun de nous. C'est une nouvelle route, un voile maintenant, comme Hébreux 10, 20 qui dit, cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il s'est identifié intimement à nous pour que nous, on puisse maintenant s'identifier à lui, qu'on puisse se donner à lui. Le chemin est ouvert. Il a pris la colère en tant qu'un homme, qu'un vrai homme, et il est ressuscité. Amen! Moi, quand je lis ça à chaque fois, je me dis tout le temps, j'ai hâte de voir Jésus, de le voir. J'ai hâte de faire la ligne pour y faire un gros câlin, un gros hug. Tu sais, il va être là en chair et en os, en gloire. On va voir ses marques, on va voir toute l'ampleur de ces instants où lui a passé à prier pour nous, à intercéder pour nous, à nous protéger toujours à la droite de Dieu en plaidant notre cause. Et comme Étienne, dans Actes 7, 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, juste avant de mourir, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, prêt à accueillir Étienne. Wow! C'est des images puissantes de l'incarnation, là. Il n'a pas vu un flou. Il a vu le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Comme Jean dans l'Apocalypse. Effrayant, mais réconfortant. Le dernier cadeau qu'on déballe dans Jean 1, on déballe la personne de Dieu, le Dieu trinitaire, on déballe l'amour de Dieu, le plan de Dieu, et on déballe la gloire de Dieu, toute la gloire de Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire. OK, c'est quoi le mot-clé ici? Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire. On déballe la gloire. Quand je regarde l'incarnation, je déballe la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire? Le mot grec, c'est « doxa ». Un mot compliqué quand même, là, qui ne veut pas simplement dire « éclat », mais comme révéler toute la splendeur de quelque chose, comme le soleil et tout son éclat, mais en même temps, il y a la chaleur, il y a les caractéristiques. Fait que ça va plus loin que juste un reflet. Là, t'sais. C'est pas comme la lune qui reflète le soleil, c'est comme le soleil qu'on voit. Là, t'sais. Fait que ça va plus loin qu'un simple reflet. Et quand je déballe l'incarnation et que je regarde Jésus, je déballe toute la gloire de Dieu. Quand les anges dans le ciel, dans Isaïe, chapitre 6, verset 3, crient l'un à l'autre, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » On dit « Toute la terre est pleine de sa gloire. » On ne parle pas de la sainteté de Dieu. On parle de la gloire de Dieu parce que la gloire, c'est le reflet de sa sainteté. Et la gloire de Jésus, c'est le reflet d'un Dieu trois fois saint au travers lui-même. C'est un être entièrement humain et entièrement divin. C'est toute la sainteté de Dieu qui se reflète et qui se révèle et qui nous éclaire. D'où le pourquoi tellement de lumière dans les passages précédents. Et de la lumière, on s'en va vers la gloire. Parce que c'est exactement ce que Jésus est, ce que Jésus, homme, est aussi toute la gloire de Dieu. Hébreux 1, 2 dit, « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Hein, » On nous ramène un peu à Jean 1, là. « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ça résume à peu près ce qu'on a vu là, jusqu'à présent. Voir Jésus et son évangile, c'est comme se connecter à la gloire de Dieu directement. Et c'est aussi le combat de ce monde. Vous savez, l'ennemi, on ne dira pas son nom un matin, mais l'ennemi ne veut surtout pas qu'on puisse voir la gloire de Dieu à travers Jésus. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. On parle des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller, et écoutez ça, qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ça, c'est capoté, là. La splendeur de l'évangile. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais c'est l'évangile, on le qualifie comment? De la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Pas d'incarnation, pas d'évangile. C'est pas compliqué. Il fallait absolument que Dieu se fasse homme pour que l'évangile prenne tout son punch. On ne pouvait pas passer par un autre chemin. C'était le seul chemin à passer. C'était toute la gloire du plan de Dieu à travers un homme, à travers Jésus. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Parler à Jésus, c'est parler à Dieu. Sans se laisser distraire par son apparence terrestre, un peu comme Philippe, là, Jean 14, 9, qui dit, ben, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Moïse, fais-moi voir ta gloire. Vous avez déjà entendu. J'aime beaucoup cette histoire-là. Je la ramène souvent dans les exposés parce que c'est une Bon, tu as un Moïse qui commence à filer un peu insécure. Là, le monde était vraiment agressif avec lui. Hein, les Israélites, là, on le voit dans Exode. Là, ça commence et c'est pas fini. Là, et là, il a besoin de réconfort. Il a besoin d'un ancrage d'adoration. Il lui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais finalement, sur une montagne, mille et quelques années plus tard, Jésus est avec ses disciples. Et c'est touchant. Dieu a répondu à sa prière d'une certaine façon. Jésus est sur la montagne, et là, tout d'un coup, Son visage change, c'est un miracle, là. Il y a encore une fois un côté mystérieux là-dedans. On parle de la transfiguration, où on voit tout d'un coup un Christ glorieux. Hein, la gloire, là, les disciples ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi dire. Pierre un pied dans la bouche un peu. Et qui est là? Deux hommes s'entretiennent avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Déballer Jésus, c'est déballer toute la sainteté glorieuse de Dieu dans ce corps-là. C'est une gloire généreuse pour nous parce que, comme lui est ressuscité, nous aussi, on va ressusciter. C'est la prémisse, c'est le premier qui nous montre un peu où est-ce qu'on s'en va quand on donne notre vie à Jésus. Si on va dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous. Hein? Les païens, c'est tout le monde. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est fou, hein? Christ dans un corps humain. Maintenant, là, on va plus loin, là. La Trinité, le plan, et là, on reçoit Christ par la foi. Christ vient faire sa maison, une maison de Dieu. Et c'est l'espérance de cette gloire-là qu'on peut vivre aujourd'hui, dans le présent. Le verset 16 de notre passage dit, Jean 1, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Dieu est venu donner, donner et donner. Il était excité et avec une grande joie de donner ce qu'il avait, ce qu'il était. Dieu est allé jusqu'à se séparer de son fils, où ce fils sur la croix dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Encore un grand mystère, là, dans un Dieu trinitaire. C'est juste, tu sais, il dit « mind-blowing » en anglais, là, c'est comme la tête, elle explose. Quand tu essaies de comprendre tout ça, il y a comme un moment donné, il faut dire, « OK, on va juste arrêter de faire aller à moulinette dans la tête, puis on va juste dire, « Wow, Seigneur, tu es allé jusque-là par amour pour chacun de nous. » Tu sais, quand tu déballes un cadeau, il n'y a rien de pire que de dire, « Ah, je vais lire les instructions tout de suite. » Merci. C'est ça l'idée. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je l'ai dit tantôt, la loi a été donnée par Moïse. L'incarnation nous expose aussi tout le drame humain, l'échec de l'humain, mais en même temps, toute la grâce de Dieu et toute la vérité que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même, mais absolument pas. Absolument pas. C'est pas par le sang. C'est pas par le sang, c'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut être sauvé. Les musiciens, l'équipe de louanges, mon fils, ma femme, ma fille et les autres. C'est Noël! Non, j'aime le dernier verset vient résumer tout l'ensemble de l'œuvre. Le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ce Jésus emmailloté dans une crèche cette nuit de Noël-là nous déballe en grande pompe tout ce que Dieu a de meilleur pour l'humanité, pour toute sa création. Il nous déballe sa personne. Le fait d'avoir un homme qui est Dieu et avec Dieu, on nous révèle la vraie personne de Dieu qui nous amène vers le chemin, vers l'éternité. Ça nous révèle le plan de Dieu. Il fallait qu'un homme prenne la place de l'homme, que Dieu prenne la place des hommes pour pouvoir arriver à un salut et à l'Évangile complet. Ça nous révèle l'excitation, l'amour de Dieu. Ça nous révèle la gloire de Dieu à travers Jésus. On voit toute sa gloire, je dirais sa gloire glorieuse. Fait que ça vient en rajoutant encore plus au niveau de la gloire, là. C'est une gloire glorieuse. Le reflet tangible, touchable de sa bonté. Imaginez, là, prendre Dieu dans ses bras. Exposer Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour de Noël-là. Et pas juste le jour de Noël, pas juste les 33 ans qui ont suivi, pas juste après la résurrection, mais pour l'éternité. Imaginez, là, la Trinité a subi une transformation ce jour-là. C'est fou! Il y avait une éternité avant où il y avait trois personnes en Dieu et il y a une éternité après où il y a trois personnes avec un Dieu qui s'est fait homme, Jésus. Wow! Ça change complètement, complètement, complètement l'histoire et la façon de voir les choses. Prions. Seigneur, merci. Merci, merci Jésus de ce don, de cette révélation de ce que tu es pour ta Trinité, pour cette espérance qu'on a maintenant. Tu viens habiter dans nos cœurs, tu es toujours au ciel, tu es merveilleux Jésus. Merci pour ta gloire, merci pour ton plan, merci pour ton merveilleux salut. Merci Seigneur de nous révéler par ton esprit qui est-ce que tu es. Qui es-tu, Seigneur? Merci, Jésus, de nous l'exposer. Merci, Seigneur, de nous prendre par la main et nous amener à notre rythme vers cette connaissance-là de ta personne. Oui, Jésus, on veut passer un joyeux Noël. On veut que ce Noël soit rempli de joie, une joie qui ne peut pas s'éteindre, une joie qui va être profondément ancrée dans ta sainteté, dans ta gloire. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous te prions. Amen.